Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
Ah, on est à la fois heureux parce qu'on s'est beaucoup préparé pour ce moment-là. Puis forcément, il y a une petite boule dans le ventre, il y a un peu d'angoisse. La route est longue, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il ne faut rien oublier. On est concentré.
Jusqu'à 22h.
C'est une course où il faut être pas loin de l'excellence dans la gestion des chiens, dans la gestion du froid, dans la gestion du sommeil, dans la gestion mentale.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Oh.
Top départ pour une aventure extraordinaire avec Nicolas Vanier dont vous venez d'entendre la voix. C'est un défi sportif, humain et canin que vous avez relevé. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir,
bienvenue,
Nicolas.
Bienvenue dans la curiosité. Ce défi, c'est donc la Yukon Quest. Si on devait résumer les principales difficultés de cette grande course en quelques mots pour commencer, ce serait quoi ?
La Yukon Quest, c'est un petit peu le Vendée Globe des conducteurs de chiens de traîneau qu'on appelle des mushers. C'est une sorte de championnat du monde, 1600 kilomètres à travers une grande partie du Yukon et une grande partie de l'Alaska, avec beaucoup de dénivelé, des froids souvent extrêmes, et ils l'ont été avec des températures de moins 50. Et puis les meilleurs mushers du monde qui s'affrontent sur une piste qui est auréolée de toute une histoire, puisque c'est la piste qu'ont suivi notamment Jack London et d'autres chercheurs d'or lorsqu'ils se sont rendus au Klondike. Et cette course commémore aussi cette fabuleuse aventure qui a eu lieu à la fin du 19e.
Vous allez nous présenter un peu le Yukon sur une carte de géo. Ça se trouve où?
Alors ça se trouve complètement à gauche et en haut du Canada.
Voilà,
c'est à côté de l'Alaska, c'est la province canadienne voisine de l'Alaska. Très montagneux, une des régions les plus froides du globe avec certaines zones de Sibérie. Magnifique parce que beaucoup de relief, une faune extrêmement variée. C'est là que vivent les derniers trappeurs et c'est là que j'avais réalisé le film Le Dernier Trappeur.
Étiez installé dans cette région-là, vous aviez construit vous-même votre maison.
Oui, moi j'y ai passé
maison, c'est ça, si
tout cumulé plus de 4 ou 5 ans de ma vie, puisque j'avais déjà avec ma femme et ma petite fille il y a 20 ans traversé toute cette région-là et d'ailleurs emprunté la piste de la Yukon Quest. J'ai entraîné des chiens pour ma traversée du Canada jusqu'à Québec. Donc oui, j'ai une longue histoire avec le Yukon et avec ses habitants.
Et dans ce Yukon Quest, il y a un pic qui est extrêmement haut, c'est l'Eagle Summit. C'est la plus grosse difficulté, c'est ça, de la course ou du lieu?
J'ai envie de dire que c'est le manque de sommeil.
Rien à voir avec les vallons.
Mais c'est vrai qu'à côté de ça, oui, il y a beaucoup de dénivelé. Il y a plusieurs sommets qui font la réputation de la course, et notamment Eagle Summit, qui est absolument incroyable parce que d'abord ça se situe à la fin de la course, et puis on a vraiment l'impression qu'il faut lever la tête pour voir
c'est
les chiens au sud de soi. Et beaucoup de rêves de victoire se sont heurtés à cette infranchissable montagne avec une des glaces, des vents souvent, donc c'est effectivement Eagle Summit, c'est le cap horn de cette course quoi.
Nicolas Vanier, vous racontez cette histoire dans votre livre La Grande Course qui est publié chez XO Édition. Vous racontez notamment la préparation. Est-ce qu'il faut arriver longtemps avant, quelques jours avant, comment ça se passe?
C'est une énorme préparation. Aujourd'hui c'est une course auquel participent plus que des professionnels. On connaît pas ça en France, mais ça a pris une très grande importance médiatique et haute dans ces pays-là. C'est donc un véritable tour de France. Ne serait-ce que pour se présenter au départ, il faut faire partie des meilleurs. Ça veut dire que les chiens sont des athlètes de très haut niveau, préparés depuis leur plus jeune âge, depuis la naissance, pour effectivement devenir ce qu'ils sont, c'est des athlètes.
Mais vous les entraînez, ces chiens, dans les conditions de la course?
Et c'est des entraînements dans les conditions de la course. C'est plus de 15, 20 000 kilomètres d'entraînement pour pouvoir prétendre ne serait-ce qu'être au départ de cette course. Et ça passe par l'excellence de la gestion, de la nourriture, de l'entraînement. C'est ça aussi qui est captivant. Mais au-delà de tout ça, ce qui compte pour la course, c'est ce qu'on appelle le will to go, c'est-à-dire gérer ce plaisir immense que les chiens ont de courir. Hein, parce que finalement, c'est ça qu'on gère sur une course comme la Conquest.
Il faut que
du premier kilomètre jusqu'au 1600e kilomètre, ça reste pour les chiens bien un plaisir, parce que tant que c'est un plaisir, ils vont vite. Et si ils sont, ne serait-ce qu'un petit peu fatigués, une baisse de morale, ils vont ralentir. S'ils ralentissent, ça veut dire que vous allez mettre plus de temps à couvrir une étape. Donc vous allez leur accorder moins de repos ensuite. Et donc ils vont courir de moins en moins vite et c'est fini.
C'est
et c'est pour
vicieux.
Ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'abandon sur cette course, parce qu'on a toujours tendance à vouloir aller un petit peu plus loin qu'on ne devrait. Et c'est ça qui fait la qualité des grands mushers, qui savent deviner aux signaux que vous envoient les chiens quand est-ce qu'il faut arrêter, quand est-ce qu'il faut repartir.
Nicolas Vanier, on parle de la préparation de vos chiens, mais la vôtre de préparation, c'est aussi un boulot.
Elle se fait avec l'entraînement des chiens. Quand je vous parlais tout à l'heure de plus de 15 000 km d'entraînement, ce sont des entraînements de nuit, de jour, des entraînements où on cumule parfois 150, 160 km. Donc on s'entraîne beaucoup. Durant ces entraînements, on patine beaucoup. Donc on se muscle tout ce qu'il faut se muscler au niveau des cuisses et des bras, etc. Et puis on prend cet équilibre qu'il faut avoir parfait sur le traîneau pour pouvoir franchir toutes les difficultés de cette course. Parce que vraiment, c'est pas un itinéraire sur lequel on se repose et sur lequel on dort sur le traîneau.
Oui, on va avoir le temps de raconter ces différentes étapes. Le jour du départ, ils sont dans quel état les chiens ?
Complètement dingue, surexcité, parce que voilà, ce sont des athlètes qui ont été entraînés tous les jours, et bien évidemment, à quelques jours de la course, on ralentit un petit peu les entraînements, on ne fait plus que des petits entraînements d'entretien, génère un manque. À cela, il y a une émulation énorme qui est due au fait qu'il y a d'autres attelages qui partent, donc les chiens
deviennent
complètement fous, ils comprennent ce qui se passe, ils sentent aussi beaucoup l'excitation du musher qui est là, c'est un rêve. Ne serait-ce que d'être au départ de cette course. Donc, il y a une excitation, il y a un public immense, plus de 20 000 personnes qui assistent au départ, 400 journalistes, enfin, il y a une ambiance absolument incroyable. Les gens hurlent à chaque départ toutes les deux minutes.
Et
les chiens sont complètement dingues. Donc, imaginez 14.
Vous avez des gens qui vous aident à les tenir.
S'il y a personne qui vous aide, vous explosez au départ, tout. Et donc, ces 14 boules de muscles absolument pas maîtrisable, qui vous écoute presque même plus tellement ils sont excités. Et donc, il faut gérer ces premiers kilomètres en priant pour qu'il n'y ait pas un petit accident qui fasse que vous êtes abandonné de la course.
C'est plus dangereux quasiment ces premiers mètres.
Allez. Les 15 premiers kilomètres sont vraiment dangereux, il faut gérer, il faut maîtriser cette force, mais c'est en même temps passionnant.
Et vous êtes excité, Nicolas Vanier, quand vous allez prendre le départ de cette course, êtes très concentré, très sage.
On est à la fois excité, mais surtout très concentré, parce qu'il faut une conduite parfaite du traîneau pour pouvoir maîtriser ces 14 chiens qui partent à fond les ballons, mais c'est extraordinaire.
Allez, le top, le go est donné, c'est parti, il va falloir maîtriser ces chiens, les accompagner pendant 1600 km. On a une petite place pour vous sur le traîneau, restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Avec Nicolas Vanier, on revit une course de légende, la Yukon Quest, 1600 km. En 12 jours avec ses chiens de traîneau dans le Grand Nord canadien. C'était en février dernier. Nicolas Vanier, vous avez prononcé ce mot plusieurs fois. Vous êtes un musher. C'est quoi un musher ? Ça vient d'où ce mot ?
Musher, ça vient des conducteurs de chiens de traîneau français qui donnaient comme ordre aux chiens pour partir, marche. Et puis marche est transformé en mush. Et du coup, musher. Voilà.
Il y a des femmes musher ?
Non seulement il y a des femmes, mais elles sont souvent très très fortes. Peut-être parce que elles ont un rapport aux chiens qui, dans certains cas, mais assez souvent, est peut-être encore plus fusionnel que les hommes. Certains expliquent ça comme ça.
Parce les
femmes
les aimer,
sont
chiens,
aussi
ça,
et surtout très résistantes sur la durée. Et il y a eu des meucheuses comme Suzanne Butcher, qui a d'ailleurs fait la couverture, je me rappelle, de nombreux magazines en France il y a une vingtaine d'années, lorsqu'elle avait gagné l'Eddie Tarot, qui est le deuxième championnat du monde des conducteurs de chiens de traîneau. Il y a deux courses de 1600 km qui se courent et Suzanne Butcher avait été l'héroïne de cette course, donc il y a eu de très grandes meucheuses et il y a encore de très grandes meucheuses. Oui.
Alors si vous nous parliez de vos chiens, parce qu'on ne peut pas être un musher sans avoir un attelage et de bons chiens, Combien sont-ils, tiens, pour une épreuve comme celle-là ?
Alors, pour une épreuve comme celle-ci, généralement, et pour pas dire pour la totalité des mushers, ils entraînent au minimum, on va dire, une cinquantaine de chiens, mais le plus souvent 80, 100, jusqu'à 150 chiens.
Au départ.
Pour sélectionner, au moment du départ, les 14 meilleurs. Ces mushers-là ont ce qu'on appelle des handlers, c'est-à-dire des personnes qui entraînent les chiens, qui s'occupent des chiens. C'est un petit peu comme, on va dire, la division 1 en foot. Hein. Mmh. Vous avez comme ça 7 ou 8 handler qui entraîne des chiens, et puis le musher est un peu comme l'entraîneur de l'équipe de France, et il prend dans la D1 différents joueurs pour faire l'équipe de France qui va affronter les meilleurs mushers. Donc la plupart des mushers, et d'ailleurs la totalité des mushers qui se sont présentés là sur la Yukon Quest, sont des professionnels qui entraînent 50, 100, 150 chiens et donc sélectionnent 14 chiens.
Et vous ?
Et alors moi, j'ai sélectionné 14 chiens sur 14. Ce qui faisait une de mes grandes différences, mais c'était pas la seule. Avec ses qualités et ses défauts étant bien évidemment que je devais faire excessivement attention pendant toute la période d'entraînement, parce que je pouvais pas me permettre, comme certains mushers, de pousser un petit peu les chiens pour voir leurs limites, pour voir... je pouvais pas me permettre, bien évidemment, d'avoir de blessures. Et puis, bien évidemment, je me suis rendu compte de la faiblesse de certains d'entre eux que j'aurais pu imaginer remplacer. Mais la force, eh bien, c'est qu'avec ces chiens, et j'étais venu en parler ici avec vous, j'ai traversé la Chine, la Mongolie, la Sibérie, vécu des choses très fortes. On a traversé beaucoup de difficultés et on forme vraiment, je crois, une équipe extrêmement fusionnelle qui a fait une certaine différence. J'en suis absolument persuadé, convaincu. Et d'ailleurs, j'ai impressionné les plus grands mushers du monde sur cette course, puisque, il faut le dire, c'est notre fierté. Au chien et moi, nous étions sur les deux derniers jours l'attelage le plus rapide.
Il y a un capitaine dans cette équipe, dans ces chiens.
Alors, il y a
on
deux
capitaines.
Alors, il y a deux capitaines. Ouais. Il y a l'entraîneur, comme un petit peu l'entraîneur d'une équipe de France. C'est-à-dire que c'est le musher,
ouais,
qui n'est pas à taper le ballon ou à courir avec les chiens. Et puis, il y a un capitaine qui est effectivement ce qu'on appelle le chef de meute, qui est, contrairement à ce que tout le monde imagine, qui n'est pas le chien que l'on place en tête. Le chien que l'on place en tête, c'est le chien qui va répondre aux ordres de direction qu'on va lui donner, pas simplement des ordres de direction d'ailleurs. Beaucoup d'ordres, il y en a une vingtaine. C'est un chien donc qui va comprendre droite, gauche, doucement, etc., etc.
Il s'appelle Miouk, c'est ça, votre
donc
chien de tête?
Il en faut plusieurs sur une course comme celle-là, parce que c'est beaucoup de responsabilités sur les épaules. Ouais. Psychologiquement, très difficile quand il y a beaucoup de vent, que la piste est compliqué à trouver, c'est psychologiquement usant pour le chien, donc faut pouvoir le changer. Donc j'avais trois ou quatre chiens de tête.
Donc
c'est vrai que
Miwok
était exceptionnel.
Mais le capitaine, alors il fait alors, quoi alors, il le, sert à quoi il est où
alors ce qu'on va appeler le capitaine, c'est le chef de meute.
Le chef de meute.
C'est la hiérarchie dans une meute de chiens est excessivement importante, aussi importante que dans une meute de loups. C'est-à-dire que vous avez un numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, des chiens qui se soumettent par rapport aux autres. Et il y a comme ça toute une hiérarchie qui n'a absolument rien à voir avec la position dans laquelle vous les mettez dans l'attelage, qui est une position qui ressemble encore au football, où vous avez les avançantes, les milieux de terrain, les arrières, et les capitaines, comme chacun sait, ce ne sont pas toujours les avançantes, ce sont même souvent parfois le gardien, parfois le
milieu de terrain. Et alors, il joue à quel poste, votre chef de meute?
Alors moi, le chef de meute, c'est un chien que j'adore, mais qui est complètement idiot, qui
s'appelle comment
qui s'appelle Wolf, qui est un chien que j'adore, qui est donc le chef de meute le plus puissant, celui auquel tous les autres chiens se soumettent. C'est un petit peu comme à l'école, vous savez, je sais pas, moi c'était souvent comme ça. Le premier de la classe, c'est une petite lunette frêle qui est toujours devant, et puis le gros costaud, un peu idiot, voilà, qui voilà la bonne patte. Alors moi, Wolf, c'est la bonne patte. Et donc généralement, ces chiens très puissants, c'est ce qu'on appelle des wheel dogs, c'est les chiens qu'on met immédiatement devant le traîneau, qui sont les chiens justement qui vont devoir sur des montées, des descentes, des virages, supporter tout le poids du traîneau, qui est un poids qui va jusqu'à 150-180 kilos. Donc c'est des chiens très puissants dont on ne demande pas, il faut bien le dire, d'être supérieurement intelligents.
Ouais. Vous vous en occupez évidemment beaucoup de ces chiens, notamment de leurs pattes, de leurs coussinets. On voit des photos dans votre livre qui est publié chez XO Editio, La Grande Course. Ils ont des petits chaussons rouges, c'est ça?
Tout le soin possible, bien évidemment, est
pendant
apporté
la course, ils ont des chaussons.
Pendant la course, bien évidemment, parce que lorsque vous courez à à moins 50, moins 60, surtout lorsqu'il doit faire 160 km d'une seule traite, la neige à cette température-là est très très abrasive, donc ça pourrait abîmer les petits coussinets, donc on leur met des petits chaussons. Il y a beaucoup de soins à porter, c'est pour cela d'ailleurs que je vous disais qu'une des plus grandes difficultés de la course, c'est le manque de sommeil. On dort à peu près 2 heures en moyenne par 24 heures, 10 jours d'affilée. Donc vous imaginez le manque de lucidité qu'on finit par avoir à la fin de la course.
Vous racontez dans le livre que vous avez l'impression que votre nuit a duré ça.
Ah ouais, non, c'est terrible.
Une fraction de seconde, quoi.
C'est terrible. Mais, mais les chiens, eux, dorment jusqu'à 8 heures par 24 heures. Parce que aussitôt que l'on s'arrête, bien évidemment, les chiens, eux, se reposent. Alors que vous, vous apportez beaucoup de soins aux chiens, notamment aux pattes, etc.
Bon,
etc.
Les nuits sont difficiles, hein, Nicolas Vanier. Mais il y a quand même une étape assez incroyable. C'est l'étape de Dawson, où les chiens vont pouvoir se reposer pendant 24 heures dans un hôtel 5 étoiles, c'est ça?
Oui, bah, c'est ce qu'on appelle un hôtel 5 étoiles. D'abord, deux mots sur Dawson. Dawson, c'est la ville héroïne de beaucoup de roman de Jack London, une ville champignon née suite à la grande ruée vers l'or, une ville avec encore ses 33 en bois où on peut encore payer son whisky en poudre d'or, enfin c'est un endroit incroyable. Et effectivement, il y a là un arrêt de 24 heures durant lequel on construit, alors nous ce qu'on appelle un hôtel 5 étoiles, c'est-à-dire un endroit protégé du vent avec énormément de paille à l'intérieur duquel les chiens sont complètement étanches à tout bruit, tout mouvement pour pouvoir parfaitement se reposer, puisque bien évidemment il faut profiter à fond de ces 24 heures pour redonner du pep, c'est du will to go aux chiens.
Et sinon, vous avez toujours un gros sac de paille sur votre traîneau, c'est ça
pour, alors, ce qui se passe, c'est qu'ils
couchent sur de la paille la nuit.
On s'arrête là où on doit s'arrêter en fonction de la fatigue des chiens, des conditions météo et autres. Donc on s'arrête en plein bouche. Et pour que les chiens puissent se reposer parfaitement, effectivement, on emmène avec soi de la paille qu'on dispose sous eux pour qu'ils puissent, pendant les quelques heures où on s'arrête, parfaitement se reposer. Donc dès qu'on s'arrête, on enlève les bottines, soins aux chiens, c'est environ entre 5 et 10 minutes par chien, donc vous multipliez ça par 14, vous imaginez. Ensuite, l'eau, parce que bien évidemment, on n'emmène pas de l'eau, on est sur de l'eau, mais ça nécessite du coup de faire fondre de la neige, donc faire un feu, donc ça prend beaucoup de temps. Ensuite, préparer la nourriture des chiens, réparer le traîneau, changer d'hélice, etc. Et puis finalement, quand vous êtes bien évidemment, vous arrêtez, vous commencez à pouvoir envisager de dormir une demi-heure ou trois quarts d'heure, 4 heures après.
C'est-à-dire que vous ne montez pas de tente, Nicolas Vanier? Vous ne montez pas de tente?
Non.
Vous glissez dans un sac de couchage et basta?
Oui, à peine, on est tout habillé, on se met le sac de couchage. Et surtout, excessivement important, on boit entre 1,5 litre et 2 litres d'eau avant de s'endormir pour pouvoir se réveiller. Sinon, vous pouvez mettre tous les réveils du monde, impossible de se réveiller. Alors qu'avec 1,5 litre d'eau, vous vous réveillez.
D'accord, on a compris pourquoi. Ouais.
La Yukon Quest, on le comprend, c'est une course un peu folle, un défi que notre invité Nicolas Vanier a relevé en février dernier. On vous le raconte sur RTL, on va prendre un petit peu de vent d'hiver pour se mettre à votre place.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Mes chiens, Burka, Miwok, Quest et toute la bande, ce sont eux les héros de cette histoire.
RTL. Un défi incroyable avec ses chiens entre le Canada et l'Alaska. Jusqu'à 22h.
Mes chiens sont mes héros. Je leur donne tout, ils me donnent tout. Ils m'ont bluffé.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est un défi, vous l'avez entendu, hors norme que l'on relève dans la curiosité. Imaginez, depuis tout à l'heure, Nicolas Vanier vous embarque à bord de son traîneau pour revivre la Yukon Quest, cette course en Alaska dans le Grand Nord canadien à laquelle il a participé cet hiver. C'était donc en février dernier. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il fallait boire beaucoup d'eau, 1,5 litre, 2 litres d'eau pour être sûr de se réveiller, mais parfois ça ne suffit pas. C'est ce qui est arrivé à l'un des concurrents février dernier.
Oui, et puis pas n'importe lequel, parce que c'est un concurrent qui rêve comme beaucoup d'autres mushers, mais depuis 20 ans et qui a consacré toute sa vie pour essayer un jour de gagner la Yukon Quest, qu'il n'a pas gagné l'année dernière parce qu'il est tombé véritablement de fatigue de son traîneau, commotion cérébrale, évacuation par hélicoptère alors qu'il allait gagner la course. Et cette année, il avait 10 heures d'avance, ce qui est absolument énorme, colossal, parce que parfois la course est gagnée à quelques secondes, quelques minutes. Donc il avait pratiquement course gagnée. Mmh. Et puis lors d'un arrêt, il a fait comme chacun d'entre nous, s'est occupé des chiens, etc., s'est couché en ayant bu 1,5 litre ou 2 litres d'eau pour être bien certain de se réveiller. Et il était tellement, tellement fatigué qu'il a rêvé, en fait, nous a-t-il dit, qu'il était en train de pisser. Et il a pissé dans son sac de couchage. Il s'est pas réveillé. Il s'est réveillé 9 heures après. Et là, Il nous a dit le pire moment de ma vie, le cauchemar absolu, parce que
c'est dit, j'ai encore perdu.
J'ai encore perdu la course. Et en fait, le deuxième, qui s'appelle Alain Moore, qui était celui d'ailleurs qui avait gagné la course l'année précédente, est arrivé un quart d'heure derrière lui, n'imaginant pas une seconde de pouvoir ne serait-ce que prétendre le rattraper avant l'arrivée. Et là, c'est de nouveau réengager une deuxième course entre deux. Et heureusement, en fait, comme ces chiens avaient bénéficié de 9 heures de repos, ils avaient un peu plus de will to go, on va dire. Et ils ont été plus rapides et il a pu reprendre un peu d'avance et enfin gagner cette course. Et il méritait vraiment de gagner cette course parce que c'est un musher qui a parfois sauvé la vie d'autres mushers au détriment de sa victoire. Donc tous les mushers du monde étaient absolument ravis de voir arriver et de gagner.
Ça provoque quoi ce manque de sommeil, je sais pas, des hallucinations. Par exemple, les marins qui font la course du Figaro, ils disent que parfois ils voient une moto ou un traîneau à chien,
sur l'eau. Moi, j'ai vu une cabane avec quelqu'un barbu avec des beaux yeux bleus et puis un immense panneau spaghetti. Avec un énorme plat de spaghetti chaud. Et donc,
je suis monté
sur la berge et tout, et il y avait des arbres, il n'y avait rien du tout. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, le fait de dormir si peu vous met dans une espèce de, je ne sais pas comment dire,
d'état de concentration.
État de comateux un petit peu, où finalement tout est multiplié, c'est-à-dire les moments d'euphorie et de dépression vous emmène tout au fond ou tout en haut, et finalement ces phases de dépression et d'euphorie alternent les unes aux autres, et vous en venez par moments, je vous assure que si vous m'aviez vu à certains moments au sommet de certaines montagnes à hurler de joie, à pleurer, à... complètement débile quoi, on en vient à...
une espèce
de folie, mais d'euphorie qui est extrêmement jouissive aussi, c'est ça qui est incroyable. C'est une espèce de drogue finalement, c'est très étrange.
Mais Nicolas Vanier, vis-à-vis des chiens, est-ce qu'il faut pas au contraire avoir un tempérament un peu serein et un peu linéaire? C'est-à-dire, est-ce qu'eux, ils ressentent les gros coups de déprime du musher?
Ils ressentent pas un peu, ils le ressentent totalement, complètement. Et moi, le scénario de ma course a été un véritable scénario de film, parce que ça ne pouvait pas commencer plus mal, parce que je me suis présenté au départ de cette course avec des chiens excessivement bien préparés et entraînés, mais qui n'étaient pas du tout au fait de l'ambiance de ces courses avec beaucoup de médias, de vétérinaires. Résultat, les chiens, avec la température aidant, on stressait, n'ont pas voulu s'alimenter au premier checkpoint, ce qui moi-même m'a totalement stressé. J'ai communiqué du stress aux chiens et nous voilà derniers, perdant pratiquement 12 heures sur les avant-derniers. J'ai dû très rapidement abandonner entre guillemets 5 de mes chiens, c'est-à-dire que je les ai donnés au checkpoint à mon handler, qui est une personne obligatoire sur les courses et qui récupère les chiens fatigués. Et je me suis rendu compte que je communiquais mon stress aux chiens. Dès que ça a commencé à repartir et à repartir dans une bonne ambiance, ça a été de mieux en mieux.
Vous leur parlez ?
Énormément. Énormément. On n'arrête pas de causer, de rigoler, de blaguer.
C'est-à-dire qu'ils vous répondent, c'est ce que vous êtes en train de dire, Nicolas Vanier, le chien.
Alors, ce qui se passe, bien évidemment, les chiens ne comprennent pas ce que vous dites, mais ils sont excessivement sensibles à l'intonation de la voix. Ils comprennent dans quel état d'esprit vous êtes et il faut beaucoup, beaucoup leur parler.
Il y a des défis physiques extrêmement durs. Il faut résister à la fatigue. Vous l'expliquiez, Nicolas Vanier. Mais il y a aussi des obstacles absolument qui semblent absolument insurmontables dans cette Yukon Quest.
Insurmontable, non, puisque on arrive au bout, mais pour certains, oui, parce qu'il y a de nombreux mushers qui arrêtent.
Vos pires obstacles lors de cette course, Nicolas?
Il y avait trois obstacles, on va dire, majeurs sur cette course. Ça a été le froid, effectivement, une très, très grosse période de froid sur les premiers jours, avec des températures au-delà de moins 50, donc c'est difficile à gérer, ça fatigue d'autant plus. Un second obstacle qui est en fait une des conséquences aussi de ces grands froids est ce qu'on appelle la slush, c'est un mélange d'eau et de neige, protégé justement par une couche de neige, qui est due en grande partie au fait que par ces périodes de grand froid, la glace s'épaissit, pèse sur l'eau, et donc il y a de l'eau qui ressort et qui vient se mélanger à la neige. Et si vous tombez dans cette espèce de gadoue et qui fait moins 50, cette gadoue, c'est du ciment qui va geler autour du traîneau, de vos bottes, de vos habits en quelques minutes, voire quelques secondes.
Vous êtes prisonnier, c'est la mort.
Donc on peut se retrouver très rapidement, prisonnier de cette soche. Et puis, une conséquence, alors là, directe de quelque chose dont on parle beaucoup actuellement, qui est le réchauffement climatique, qui est ce qu'on appelle le PAC sur les fleuves et les rivières, qui est un phénomène qui est en train de devenir absolument catastrophique et qui rend les rivières impraticables.
Et on va prendre le temps d'expliquer ce qu'est ce phénomène dans un instant sur RTL. On continue de partager cette aventure en pleine Alaska, la Yukon Quest. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité avec Nicolas Vanier, on découvre le Grand Nord canadien, l'Alaska, mais au pas de course, hein. 1600 km en 12 jours par moins 50 degrés, c'est le défi qu'il a relevé en février dernier, une aventure qu'il raconte dans son livre La Grande Course, publié chez Ixo Éditions. Nicolas Vanier, on va raconter bien sûr la fin de cette course mythique, mais d'abord un mot de la COP21, cette conférence sur le climat qui s'ouvre la semaine prochaine à Paris. Vous qui sillonnez la planète depuis des décennies, vous dites que c'est la conférence de la dernière chance. Pourquoi ?
Parce qu'on a déjà dépensé 1 degré, on a le droit à 2 degrés. Sinon, on va rentrer dans des catastrophes, des phénomènes d'emballement. Pour être concret, sinon tout ça reste très abstrait, hein. Très rapidement, un exemple, dans le Grand Nord, tout repose sur le permafrost. C'est une sorte de ciment naturel où on retrouve même des mammouths qui existent depuis des millénaires. À cause du réchauffement climatique, qui est pas de 1 degré comme en France, mais de 3 ou 4 degrés dans ces régions arctiques, le permafrost est en train de fondre. Donc il y a des forêts qui tombent, on appelle ça des forêts ivres. Mais surtout, il y a une bombe à retardement sous le permafrost. C'est du méthane qui est piégé et depuis des millénaires dans des quantités absolument gigantesque, qui du coup se trouve libéré, va se mélanger au gaz que nous émettons par la combustion des énergies fossiles. Donc encore plus de permafrost qui dégèle, donc encore plus de méthane. Et donc on comprend qu'on va bientôt rentrer, on a commencé à rentrer dans un phénomène qui est, d'après tous les scientifiques, et j'ai travaillé auprès de scientifiques russes, canadiens et français sur ces questions-là, c'est une bombe à retardement qui va nous exploser à la figure si nous dépassons ce seuil de réchauffement de 2 degrés. Donc pourquoi la dernière chance? Parce qu'on a déjà dépensé un degré. Il nous reste donc un degré à dépenser, entre guillemets. On sait quelle est la quantité de gaz carbonique que nous avons le droit d'émettre pour ne pas aller au-delà de ces 2 degrés. C'est tout l'enjeu de la COP21 qui s'achemine malheureusement vers un demi-succès, parce que vous vous disiez que la COP21 allait s'ouvrir, mais en fait, les négociations, elles se sont pratiquement achevées. Oui. Et on se dirige plus vers un 2,5, peut-être 3 degrés. Et vous savez,
ça veut dire qu'on se donne les droit de laisser la température augmenter de 3 degrés, c'est ça? Alors qu'il faudrait...
Oui, mais ça, on est très fort pour ça. On attend les catastrophes pour régler les problèmes. On pourrait malheureusement parler de beaucoup d'exemples. Et donc, on danse sur le Titanic, alors qu'on sait qu'il va s'écraser. Et donc, il faut espérer un sursaut. Alors, c'est vrai qu'il y a des signes positifs tout de même. L'échec de Copenhague, c'est les États-Unis et la Chine qui avaient provoqué l'échec de Copenhague, qui sont rentrés dans la danse avec des signes très encourageant de la part de la Chine, des signes encourageants aussi parce que c'est vrai qu'il y a une vraie prise de conscience mondiale, mais c'est pas assez ambitieux, c'est pas assez courageux, et surtout ça va nous coûter mais des fortunes, puisque les gens n'entendent que par l'argent, parlons argent, ça va nous coûter des fortunes. Les réfugiés être 200 millions bientôt. Est-ce qu'on arrivera à les contraindre derrière des fils de fer barbelés? Est-ce qu'on va leur tirer dessus des femmes et des enfants qui ne pourront pas vivre parce qu'ils n'ont plus d'eau, plus rien? Donc il faut se rendre compte de cette réalité, de ces bombes à retardement qui va exploser, et être ambitieux, être courageux, c'est ce qu'on demande à nos chefs d'État qui sont réunis là dans quelques
jours. Et changer nos modes de vie.
Et changer notre mode de vie en étant un peu plus sobre, en gaspillant un petit peu moins, c'est assez facile, et en utilisant aussi le génie humain pour permettre à nos enfants de pouvoir partir, continuer à explorer les contrées lointaines, à voyager en voiture. Moi, je ne crois pas qu'on va aller vers un monde où on va vivre moins bien. Je pense au contraire que pour régler toutes ces problématiques, qui ne sont pas d'ailleurs que environnementales, parce que finalement, toutes ces crises, elles se nourrissent les unes aux autres, je pense qu'au contraire, faut aller, on va aller, je l'espère en tout cas, vers un monde où on va vivre plus solidaire, où on va vivre mieux, avec peut-être un peu moins d'inégalités qui deviennent totalement insoutenables.
Nicolas Vanier, on va boucler cette Yukon Quest. Vous étiez donné un objectif, c'était d'arriver dans les 10 premiers. Vous nous avez raconté tout à l'heure qu'après quelques jours de course, vous êtes dernier. Vous arrivez en quelle position?
Oui, c'est un vrai scénario de film, et plusieurs personnes qui ont lu mon livre me disent que c'est un roman, et c'est vrai que c'est un roman, cette course. Je n'aurais jamais pu et aucun spectateur, aucun journaliste n'imaginait que j'allais ne serait-ce qu'arriver au milieu de la course avec 9 chiens alors que tous mes concurrents en avaient 14. Et j'ai terminé avec mes 9 chiens et j'ai terminé surtout avec l'attelage le plus rapide sur certaines étapes mythiques comme le Cap Horn, c'est-à-dire Eagle Summit. Et donc j'ai grignoté 26, 25, 24, 13, 14, 12, 11. Et ça a été absolument incroyable, notamment toute cette deuxième partie avec des chiens, mais joyeux. Mais vous pouvez pas imaginer le sourire, je le dis, le sourire que mes chiens avaient sur les deux derniers jours. Ils étaient, ils allaient vite, ils étaient heureux de courir. Il y avait une ambiance entre les chiens et moi qui était complètement euphorique parce qu'on grignotait les places les unes après les autres, parce qu'on franchissait les montagnes avec allégresse et une certaine facilité. Et donc ça a été la fin de la course, malgré la fatigue, malgré tout ça, un moment merveilleux avec les chiens.
Nicolas Vanier, à 500 mètres de la ligne d'arrivée, vous vous êtes arrêté. Pourquoi ?
Parce que le dixième était très loin derrière moi.
Vous avez savouré.
Et qu'à l'arrivée, il y a beaucoup de monde, beaucoup de journalistes, et que j'avais envie d'un petit moment avec les chiens et moi. Et donc, on s'est parlé pendant 5 ou 10 minutes.
Vous avez pleuré, vous étiez ému.
J'ai pleuré dans les poils de Burka, de Miwok et tous les chiens. Je les ai remerciés de m'avoir emmené, d'avoir fait cette aventure avec moi. Je crois qu'ils étaient vraiment heureux de le faire.
Et vous avez passé la ligne d'arrivée avec eux.
Et puis ensuite, après, bien sûr, j'ai franchi la ligne d'arrivée. Et là, je suis tombé dans les bras de Fabien, qui a été un élément très important de cette course, qui a été ce qu'on appelle mon handler, celui qui avec moi entraînait les chiens, et puis de quelques-uns de mes amis qui m'ont fait l'amitié de venir à l'arrivée. C'était un très très beau moment, très joli moment, et les chiens ont été très 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 bien récompensés avec des espèces de steaks.
C'est pas vrai. Vous avez eu vos spaghettis, Nicolas?
Et j'ai eu la bière d'abord, parce que moi je suis un grand amateur de bière, et la première vraie impression après 10 jours, c'est un moment
la
sublime.
La première gorgée de bière.
Et un très, très beau cadeau que m'ont fait tous les mushers, dont les plus grands mushers du monde, qui m'ont remis un poster pour me féliciter en me donnant rendez-vous dans 2 ans. Et je le serai sur cette course avec là, pas l'ambition d'être dans le top 10, mais d'être sur le podium.
On est avec vous, Nicolas.
Bravo, on suivra ça. La grande course, c'est publié chez XO Éditions. C'était passionnant. Merci.
Vous écoutez RTL.